Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc encore dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Honoré de Balzac, Ferragus, chef des dévorants. Cette vie de jeune fille, dont l'amour trompé, les joies funestes, les douleurs, la misère et l'épouvantable résignation étaient résumés en si peu de mots. Ce poème inconnu, mais essentiellement parisien, écrit dans cette lettre sale, agir pendant un moment sur M. de Maulincourt, qui finit par se demander si cette Ida ne serait pas une parente de Madame Jules, et si le rendez-vous du soir, duquel il avait été fortuitement témoin, n'était pas nécessité par quelque tentative charitable. Que le vieux pauvre eût séduit Ida, cette séduction tenait du prodige. En se jouant dans le labyrinthe de ses réflexions qui se croisaient et se détruisaient l'une par l'autre, le baron arriva près de la rue Pagevin et vit un fiacre arrêté dans le bout de la rue des Vieux Augustins qui avoisine la rue Montmartre. Tous les fiacres stationnés lui disaient quelque chose. « Y serait-elle » pensa-t-il. Et son cœur battait par un mouvement chaud et fiévreux. Il poussa la petite porte à grelot, mais en baissant la tête et en obéissant à une sorte de honte, car il entendait une voix secrète qui lui disait « Pourquoi mets-tu le pied dans ce mystère ?» Il monta quelques marches et se trouva nez à nez avec la vieille portière. « Monsieur Ferragus, connais pas. Comment, Monsieur Ferragus ne demeure pas ici ?» Oh, nous n'avons pas ça dans la maison. Mais ma bonne femme, je ne suis pas une bonne femme, monsieur, je suis concierge. Mais madame, reprit le baron, j'ai une lettre à remettre à monsieur Ferragus. Ah, si monsieur a une lettre, dit-elle, en changeant de ton, la chose est bien différente. Voulez-vous la faire voir, votre lettre ? Auguste montra la lettre pliée. La vieille hocha la tête d'un air de doute, hésita, sembla vouloir quitter sa loge pour aller instruire le mystérieux Ferragus de cet incident imprévu. Puis elle dit « Ah, bien montez, monsieur, vous devez savoir où c'est. » Sans répondre à cette phrase par laquelle cette vieille rusée pouvait lui tendre un piège, l'officier grimpa lestement les escaliers et sonna vivement à la porte du second étage. Son instinct d'amant lui disait « Elle est là. » L'inconnu du porche, le Ferragus, ou l'auteur des mots d'Isa, ouvrit lui-même. Il se montra vêtu d'une robe de chambre à fleurs, d'un pantalon de molleton blanc, les pieds chaussés dans de jolies pantoufles en tapisserie et la tête débarbouillée. Madame Jules, dont la tête dépassait le chambranle de la porte de la seconde pièce, pâlit et tomba sur une chaise. « Qu'avez-vous, madame ?» s'écria l'officier en s'élançant vers elle. Mais Ferragus étendit le bras et rejeta vivement l'officier en arrière par un mouvement si sec qu'Auguste crut avoir reçu dans la poitrine un coup de barre de fer. « Arrière, monsieur, dit cet homme, que voulez-vous ? Vous rôdez dans le quartier depuis 5 à 6 jours, seriez-vous un espion ?» « Êtes-vous monsieur Ferragus ?» dit le baron. « Non, monsieur. Néanmoins, reprit Auguste, je dois vous remettre ce papier que vous avez perdu sous la porte de la maison où nous étions tous deux pendant la pluie. » En parlant et en tendant la lettre à cet homme, le baron ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil sur la pièce où le recevait Ferragus. Il la trouva fort bien décorée, quoique simplement, Il y avait du feu dans la cheminée. Tout auprès était une table servie plus somptueusement que ne le comportait l'apparente situation de cet homme et la médiocrité de son loyer. Enfin, sur une causeuse de la seconde pièce qu'il lui fut possible de voir, il aperçut un tas d'or et entendit un bruit qui ne pouvait être produit que par des pleurs de femmes. « Ce papier m'appartient, je vous remercie, » dit l'inconnu en se tournant de manière à faire comprendre au baron qu'il désirait le renvoyer aussitôt. Trop curieux pour faire attention à l'examen profond dont il était l'objet, Auguste ne vit pas les regards à demi magnétiques par lesquels l'inconnu semblait vouloir le dévorer. Mais s'il eût rencontré cet œil de basilic, il aurait compris le danger de sa position. Trop passionné pour penser à lui-même, Auguste salua, descendit et retourna chez lui en essayant de trouver un sens dans la réunion de ces trois personnes, Ida, Ferragus et Madame Jules. Occupation qui, moralement, équivalait à chercher l'arrangement des morceaux de bois biscornus du casse-tête chinois sans avoir la clé du jeu. Mais Madame Jules l'avait vu. Madame Jules venait là. Madame Jules lui avait menti. Moulincourt se proposa d'aller rendre une visite à cette femme le lendemain. Elle ne pouvait pas refuser de le voir. Il s'était fait son complice. Il avait les pieds et les mains dans cette ténébreuse intrigue. Il tranchait déjà du sultan et pensait à demander impérieusement à Madame Jules de lui révéler tous ses secrets. En ce temps-là, Paris avait la fièvre des constructions. Si Paris est un monstre, il est assurément le plus maniaque des monstres. Il s'éprend de mille fantaisies. Tantôt, il bâtit comme un grand seigneur qui aime la truelle. Puis, il laisse sa truelle et devient militaire. Il s'habille de la tête aux pieds en garde nationale, fait l'exercice et fume. Tout à coup, il abandonne les répétitions militaires et jette son cigare. Puis, il se désole, fait faillite, vend ses meubles sur la place du Châtelet, dépose son bilan. Mais quelques jours après, il arrange ses affaires, se met en fête et danse. Un jour, il mange du sucre d'orge à pleine main, à pleine lèvre. Hier, il achetait du papier Venen. Aujourd'hui, le monstre a mal aux dents et s'applique un alexipharmaque sur toutes ses murailles. Demain, il fera ses provisions de pâtes pectorales. Il a ses manies pour le mois, pour la saison, pour l'année, comme ses manies d'un jour. En ce moment, donc, tout le monde bâtissait et démolissait quelque chose. On ne sait quoi encore. Il y avait très peu de rues qui ne vissent pas l'échafaudage à longue perche, garni de planches mises sur des traverses et fixées d'étage en étage dans des boulins. Construction frêle ébranlée par les limousins, mais assujettie par des cordages toutes blanches de plâtre, rarement garantie des atteintes d'une voiture par ce mur de planches, enceinte obligée des monuments qu'on ne bâtit pas. Il y a quelque chose de maritime dans ces mâts, dans ces échelles, dans ces cordages, dans les cris des maçons. Or, à 12 pas de l'hôtel Maulincourt, un de ces bâtiments éphémères était élevé devant une maison que l'on construisait en pierre de taille. Le lendemain, au moment où le baron de Maulincourt passait en cabriolet devant cet échafaud, en allant chez Madame Jules, une pierre de 2 pieds carrés, arrivée au sommet des perches, s'échappa de ses liens de corde en tournant sur elle-même et tomba sur le domestique qu'elle écrasa derrière le cabriolet. Un cri d'épouvante fit trembler l'échafaudage des maçons. L'un d'eux, en danger de mort, se tenait avec peine aux longues perches et paraissait avoir été touché par la pierre. La foule s'amassa promptement. Tous les maçons descendirent, criant, jurant et disant que le cabriolet de monsieur de Maulincourt avait causé un ébranlement de leur grue. 2 pouces de plus et l'officier avait la tête coiffée par la pierre. Le valet était mort. La voiture était brisée. Ce fut un événement pour le quartier, les journaux le rapportèrent. Monsieur de Maulincourt, sûr de n'avoir rien touché, se plaignit. La justice intervint. Enquête faite, il fut prouvé qu'un petit garçon, armé d'une latte, montait la garde et criait aux passants de s'éloigner. L'affaire en resta là. Monsieur de Maulincourt en fut pour son domestique, pour sa terreur, et resta dans son lit pendant quelques jours. Car l'arrière-train du cabriolet, en se brisant, lui avait fait des contusions. Puis la secousse nerveuse causée par la surprise lui donna la fièvre. Il n'alla pas chez Madame Jules. 10 jours après cet événement et à sa première sortie, il se rendait au bois de Boulogne dans son cabriolet restauré. Lorsqu'en descendant la rue de Bourgogne, à l'endroit où se trouve l'égout en face de la chambre des députés, l'essieu se cassa net par le milieu. Et le baron allait si rapidement que cette cassure eut pour effet de faire tendre les deux roues à se rejoindre assez violemment pour lui fracasser la tête. Mais il fut préservé de ce danger par la résistance qu'opposa la capote. Néanmoins, il reçut une blessure grave aux côtes. Pour la seconde fois, en 10 jours, il fut rapporté quasi mort chez la douairière éplorée. Ce second accident lui donna quelque défiance et il pensa, mais vaguement, à Ferragus et à Madame Jules. Pour éclaircir ses soupçons, il garda l'essieu brisé dans sa chambre et manda son carrossier. Le carrossier vint, regarda l'essieu, la cassure, et prouva deux choses à Monsieur de Maulincourt. D'abord, l'essieu ne sortait pas de ses ateliers. Il n'en fournissait aucun qu'il n'y gravât grossièrement les initiales de son nom. Et il ne pouvait pas expliquer par quel moyen cet essieu avait été substitué à l'autre. Puis la cassure de cet essieu suspect avait été ménagée par une chambre, espèce de creux intérieur, par des soufflures et par des pailles très habilement pratiquées. « Hé, monsieur le baron, il a fallu être joliment malin, » dit-il. « Pour arranger un essieu sur ce modèle, on jurerait que c'est naturel. » Monsieur de Maulincourt pria son carrossier de ne rien dire de cette aventure et se tint pour dûment averti. Ces deux tentatives d'assassinat étaient ourdies avec une adresse qui dénotait l'inimitié de gens supérieurs. « C'est une guerre à mort, » se dit-il en s'agitant dans son lit. « Une guerre de sauvages, une guerre de surprises, d'embuscades, de traîtrises, déclarée au nom de Madame Jules. À quel homme appartient-elle donc ? De quel pouvoir dispose donc ce Ferragus ? »
Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Tandis, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre, te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, tu restais là.
Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus.
Tandis, un peu maudit, un peu vieilli. Mes musiciens sont ridés sur ce clavier, c'est jauni. J'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce rock sophistiqué qui étonnait même les Anglais.
Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis.
Denis Flageol.
Retour au roman de Honoré de Balzac, Ferragus, chef des dévorants, après cette pause musicale. Enfin, monsieur de Maulincourt, quoique brave et militaire, ne put s'empêcher de frémir. Au milieu de toutes les pensées qui l'assaillirent, il y en eut une contre laquelle il se trouva sans défense et sans courage. Le poison ne serait-il pas bientôt employé par ses ennemis secrets ? Aussitôt dominé par des craintes que sa faiblesse momentanée, que la diète et la fièvre augmentaient encore, il fit venir une vieille femme attachée depuis longtemps à sa grand-mère. Une femme qui avait pour lui un de ses sentiments à demi maternels, le sublime du commun. Sans s'ouvrir entièrement à elle, il la chargea d'acheter secrètement et chaque jour, en des endroits différents, les aliments qui lui étaient nécessaires en lui recommandant de les mettre sous clé et de les lui apporter elle-même, sans permettre à qui que ce fût de s'en approcher quand elle les lui servirait. Enfin, il prit les précautions les plus minutieuses pour se garantir de ce genre de mort. Il se trouvait au lit, seul, malade. Il pouvait donc, à loisir, penser à sa propre défense, le seul besoin assez clairvoyant pour permettre à l'égoïsme humain de ne rien oublier. Mais le malheureux malade avait empoisonné sa vie par la crainte. Et malgré lui, le soupçon teignit toutes les heures de ses sombres nuances. Cependant, ces deux leçons d'assassinat lui apprirent une des vertus les plus nécessaires aux hommes politiques. Il comprit la haute dissimulation dont il faut user dans le jeu des grands intérêts de la vie. Taire son secret n'est rien. Mais se taire à l'avance, mais savoir oublier un fait pendant 30 ans s'il le faut, à la manière d'Ali Pacha, pour s'assurer une vengeance méditée pendant 30 ans, est une belle étude en un pays où il y a peu d'hommes qui sachent dissimuler pendant 30 jours. Monsieur de Maulincourt ne vivait plus que par Madame Jules. Il était perpétuellement occupé à examiner sérieusement les moyens qu'il pouvait employer dans cette lutte inconnue pour triompher d'adversaires inconnus. Sa passion anonyme pour cette femme grandissait de tous ses obstacles. Madame Jules était toujours debout au milieu de ses pensées et de son cœur, plus attrayante alors par ses vices présumés que par les vertus certaines qui en avaient fait pour lui son idole. Le malade, voulant reconnaître les positions de l'ennemi, crut pouvoir sans danger initier le vieux vidame au secret de sa situation. Le commandeur aimait Auguste comme un père aime les enfants de sa femme. Il était fin, adroit, il avait un esprit diplomatique. Il vint donc écouter le baron, hocha la tête, et tous deux tinrent le conseil. Le bon vidame ne partagea pas la confiance de son jeune ami quand Auguste lui dit qu'au temps où il vivait, la police et le pouvoir étaient à même de connaître tous les mystères et que s'il fallait absolument y recourir, il trouverait en eux de puissants auxiliaires. Le vieillard lui répondit gravement « La police, mon cher enfant, est ce qu'il y a de plus inhabile au monde, et le pouvoir, ce qu'il y a de plus faible dans les questions individuelles. Ni la police, ni le pouvoir ne savent lire au fond des cœurs. Ce qu'on doit raisonnablement leur demander, c'est de rechercher les causes d'un fait. Or, le pouvoir et la police sont éminemment impropres à ce métier. Il manque essentiellement de cet intérêt personnel qui révèle tout à celui qui a besoin de tout savoir. Aucune puissance humaine ne peut empêcher un assassin ou un empoisonneur d'arriver soit au cœur d'un prince, soit à l'estomac d'un honnête homme. Les passions font toute la police. » Le commandeur conseilla fortement au baron de s'en aller en Italie, d'Italie en Grèce, de Grèce en Syrie, de Syrie en Asie, et de ne revenir qu'après avoir convaincu ses ennemis secrets de son repentir, et de faire ainsi tacitement sa paix avec eux, sinon de rester dans son hôtel, et même dans sa chambre, où il pouvait se garantir des atteintes de ce Ferragus, et n'en sortir que pour l'écraser en toute sûreté. Il ne faut toucher à son ennemi que pour lui abattre la tête, lui dit-il gravement. Néanmoins, le vieillard promit à son favori d'employer tout ce que le ciel lui avait départi d'astuce pour, sans compromettre personne, pousser des reconnaissances chez l'ennemi, en rendre bon compte et préparer la victoire. Le commandeur avait un vieux Figaro retiré, le plus malin singe qui jamais eût pris figure humaine, jadis spirituel comme un diable, faisant tout de son corps comme un forçat, alerte comme un voleur, fin comme une femme, mais tombé dans la décadence du génie, faute d'occasion depuis la nouvelle constitution de la société parisienne qui a mis en réforme les valets de comédie. Ce scapin émérite était attaché à son maître comme à un être supérieur. Mais le rusé vidame ajoutait chaque année au gage de son ancien prévôt de galanterie une assez forte somme, attention qui en corroborait l'amitié naturelle par les liens de l'intérêt et valait au vieillard des soins que la maîtresse la plus aimante n'eût pas inventés pour son ami malade. Ce fut cette perle des vieux valets de théâtre, débris du dernier siècle, ministre incorruptible, faute de passion à satisfaire, auquel se fièrent le commandeur et monsieur de Maulincourt. Monsieur le baron gâterait tout, dit ce grand homme en livrée appelé au conseil. Que monsieur mange, boive et dorme tranquillement, je prends tout sur moi. En effet, 8 jours après la conférence, au moment où M. de Maulincourt, parfaitement remis de son indisposition, déjeunait avec sa grand-mère et le vidame, Justin entra pour faire son rapport. Puis, avec cette fausse modestie qu'affecte les gens de talent, il dit, lorsque la douairière fut rentrée dans ses appartements, « Ferragus n'est pas le nom de l'ennemi qui poursuit monsieur le baron. Cet homme, ce diable, s'appelle Gratien Henri Victor Jean-Joseph Bourignard. Le sieur Gratien Bourignard est un ancien entrepreneur de bâtiments, jadis fort riche, et surtout l'un des plus jolis garçons de Paris, un Lovelace, capable de séduire grandissons. Ici s'arrêtent mes renseignements. Il a été simple ouvrier, et les compagnons de l'ordre des dévorants l'ont dans le temps élu pour chef sous le nom de Ferragus 23. La police devrait savoir cela. Si la police était instituée pour savoir quelque chose. Cet homme a déménagé, ne demeure plus rue des Vieux Augustins et perche maintenant rue Joquelet. Madame Jules Desmarets va le voir souvent. Assez souvent, son mari, en allant à la bourse, l'amène rue Vivienne, où elle mène son mari à la bourse. Monsieur le vidame connaît trop bien ces choses-là pour exiger que je lui dise si c'est le mari qui mène sa femme ou la femme qui mène son mari. Mais Madame Jules est si jolie que je parierais pour elle. Tout cela est du dernier positif. Mon Bourignard joue souvent au numéro 123. C'est, sauf votre respect, monsieur, un farceur qui aime les femmes et qui vous a ses petites allures comme un homme de condition. Du reste, il gagne souvent, se déguise comme un acteur, se grime comme il veut et vous a la vie la plus originale du monde. Je ne doute pas qu'il n'ait plusieurs domiciles, car la plupart du temps, il échappe à ce que monsieur le commandeur nomme les investigations parlementaires. Si monsieur le désire, on peut néanmoins s'en défaire honorablement, eu égard à ses habitudes. Il est toujours facile de se débarrasser d'un homme qui aime les femmes. Néanmoins, ce capitaliste parle de déménager encore. Maintenant, monsieur le vidame et monsieur le baron, ont-ils quelque chose à me commander ? Justin, je suis content de toi, ne va pas plus loin sans ordre, mais veille ici à tout, de manière que monsieur le baron n'ait rien à craindre. Mon cher enfant, reprit le vidame, reprends ta vie et oublie madame Jules. Non, non, dit Auguste, je ne céderai pas la place à Gratien Bourignard. Je veux l'avoir pied et poing liés, et madame Jules aussi. Le soir, le baron Auguste de Maulincourt, récemment promis à un grade supérieur dans une compagnie des gardes du corps, alla au bal, à l'Élysée Bourbon, chez madame la duchesse de Berry. Là, certes, il ne pouvait y avoir aucun danger à redouter pour lui. Le baron de Maulincourt en sortit néanmoins avec une affaire d'honneur à vider, une affaire qu'il était impossible d'arranger. Son adversaire, le marquis de Ronquerolles, avait les plus fortes raisons de se plaindre d'Auguste. Et Auguste y avait donné lieu par son ancienne liaison avec la sœur de monsieur de Ronquerolles, la comtesse de Sérisy. Cette dame, qui n'aimait pas la sensiblerie allemande, n'en était que plus exigeante dans les moindres détails de son costume de prude. Par une de ces fatalités inexplicables, Auguste fit une innocente plaisanterie que madame de Sérisy prit fort mal et de laquelle son frère s'offensa. L'explication eut lieu dans un coin à voix basse, en gens de bonne compagnie. Les deux adversaires ne firent point de bruit. Le lendemain seulement, la société du faubourg Saint-Honoré, du faubourg Saint-Germain et le château s'entretinrent de cette aventure. Madame de Sérisy furent chaudement défendues et l'on donna tous les torts à Maulincourt. D'augustes personnages intervinrent. Des témoins de la plus haute distinction furent imposés à messieurs de Maulincourt et de Ronquerolles. Et toutes les précautions furent prises sur le terrain pour qu'il n'y eût personne de tué. Voilà, nous avons terminé pour ce soir la suite donc de ce roman de Honoré de Balzac-Ferragus, Chef des Dévorants, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.